sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans Accent essentiellement consacré aujourd'hui encore aux migrants et aux réfugiés. Alors après le choc de la photo du petit garçon échoué sur une plage turque, l'Europe s'est décidée à entrouvrir ses portes. Devant le Parlement européen, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, exhortait ce matin les 28 États membres, dont certains plus que réticents, à se répartir 160 000 réfugiés arrivés en Grèce, en Italie ou encore en Hongrie. Devançant l'annonce de plusieurs jours, l'Allemagne a donné l'exemple. Elle promet d'accueillir 200 000 réfugiés. Des réfugiés qui continuent d'affluer en Grèce, 230 000 depuis janvier. Devenu le lieu emblématique d'une vague sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, la petite île de Lesbos est totalement débordée. 20 000 personnes sont déjà sur place et les arrivées de réfugiés sont quotidiennes, suscitant quelques tensions avec les policiers. Pour pallier les insuffisances des pouvoirs publics, certains habitants se sont engagés avec leurs maigres moyens. Reportage Charlotte Sénard.
Nous venons des Pays-Bas. Il y a une semaine, on allait venir en vacances sur l'île quand on a entendu qu'il y avait une arrivée massive de réfugiés. Alors on a décidé de venir aider.
Ah, vous êtes aussi en vacances ?
Oui, alors la veille du départ, on a demandé à notre église s'ils pouvaient nous donner de l'argent. Ils ont donné une certaine somme pour qu'ils puissent l'utiliser ici. Voilà la maison.
Ce couple, mi-touriste, mi-bénévole, est venu chercher des couvertures dans cette maison en haut du village de Molivos. Elles seront distribuées aux réfugiés qui dorment dans un champ cette nuit. Des cartons remplis de vêtements encombrent le couloir. C'est ici que les bénévoles stockent une partie des dons. La nourriture est dans une autre maison. Tout est offert par des touristes, des locaux ou encore envoyé directement depuis l'étranger. Dans ce village touristique, aucune structure d'accueil. Les réfugiés syriens, afghans, pakistanais ou encore bangladais arrivent dans de petites embarcations sur les plages aux alentours. Une vingtaine de bénévoles se sont regroupés autour de Melinda, une Australienne qui tient une taverne sur le port, là où les gardes-côtes amènent les réfugiés. Ils avaient commencé en 2008, explique Dionysios Pavlou, un enseignant, mais devant l'affluence, ils ont dû reprendre leur activité bénévole dans des conditions pas toujours faciles.
Au début, il n'y avait rien. Tout tenait dans ce restaurant. C'était le premier endroit dans lequel les gens pouvaient enfin se reposer. Mais les propriétaires des cafés autour ont commencé à se plaindre. Et les réfugiés sont devenus de plus en plus nombreux. On a donc cherché d'autres endroits pour les aider. Il y avait une ou deux possibilités, mais les voisins n'en voulaient pas et se sont plaints aux autorités. Voilà notre principal souci aujourd'hui. Où va-t-on pouvoir centraliser nos actions ?
Les bénévoles se sont alors repliés temporairement sur un parking avant d'en être interdits d'accès. Désormais, ils se concentrent sur les réfugiés amenés au port par les gardes-côtes. Fin août, le nombre d'arrivées a doublé. 300 à 400 personnes débarquent chaque jour dans ce village de 1500 habitants et les bénévoles sont débordés. À Mytilène, au sud de l'île, changement de décor. Des petites maisons en bois sont installées à l'ombre de grands pins et quelques enfants jouent dehors. Baptiste de Marne, un bénévole français, nous fait le tour du propriétaire.
On est à Picpa, c'est un ancien camping pour orphelins qui a été ouvert par un groupe de volontaires pour accueillir des familles de migrants. D'abord en demande d'asile, donc pour un long moment, environ 6 mois. Mais on a quand même tous les soirs des personnes qui sont là pour une nuit, qui attendent le ferry ou des papiers.
150 personnes dorment actuellement sur place. Pour l'hébergement d'urgence, la priorité est donnée aux cas les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les familles ou les handicapés. Les autres sont des demandeurs d'asile, comme Moulham, un jeune Syrien qui attend assis sur un petit muret à l'ombre. Cet étudiant en sciences et ses parents âgés sont restés bloqués en Grèce à court d'argent.
J'étais à Athènes pour demander l'asile, mais là-bas on est très nombreux, il y a beaucoup de corruption, tout est difficile. Il n'y a pas d'endroit pour se loger, nous n'avons pas d'argent. Ici, il y a au moins une espèce d'abri, on n'est pas condamné à dormir dans la rue. Ce n'est pas très bien, mais vous savez, c'est mieux que rien, on reste ici jusqu'à ce qu'on ait obtenu des papiers.
Mais dans le camp, les rations de nourriture sont limitées, car elles fonctionnent uniquement grâce aux dons et aux bénévolats. Et Filatsoudi fait partie des fondateurs. Selon elle, la situation grecque n'est pas toujours facile à comprendre pour les réfugiés.
Tout le monde a cette impression que l'Europe va donner, offrir tout ça qu'ils ont besoin. Ils arrivent ici, ils ne trouvent rien. Et après, quand il y a des gens qui arrivent dans ces camps-là, aussi, ils ne peuvent pas comprendre que ça, c'est bénévole.
Bien que la transformation du camping en camp pour réfugiés soit illégale, le maire de Mytilène, Spiros Galinos, a renoncé à le fermer pour ne pas envoyer de mauvais messages, dit-il. En fait, il n'y a pas de solution alternative, insistent les bénévoles. Au milieu des maisons en bois, Baptiste de Marne n'arrête pas de courir. Il distribue des couches, des sachets de thé ou donne des conseils. En juin, cet étudiant français ne s'attendait pas à trouver une telle situation sans soutien concret des autorités ni de l'Union européenne.
L'Europe ferme les yeux parce qu'elle le peut. Mais le flot de migrants va arriver en Europe de l'Ouest, je veux dire, en France, en Allemagne, dans ces grands pays. Et à ce moment-là, ils devront faire quelque chose. Et certainement, ils feront d'abord quelque chose chez eux et ensuite, je pense qu'ils réagiront au niveau des frontières, j'espère.
La situation actuelle lui donne raison. Plusieurs milliers de réfugiés transitent aujourd'hui vers le nord du continent. L'Union européenne a promis 30 millions d'euros pour soutenir l'effort grec et le gouvernement transitoire tente de trouver des solutions pour soulager les îles. Mais cela reste une gageure quand on sait qu'entre 17 000 et 20 000 réfugiés stationnent sur Lesbos, ce qui représente presque un quart de la population de l'île.
Et vous pouvez retrouver l'initiative des bénévoles sur leur page Facebook Help for Refugees in Molivos. Vous l'avez entendu dans le reportage de Charlotte Stevenard, les migrants ne veulent pas rester en Grèce où le système d'asile est saturé. Ils tentent de rejoindre l'Europe du Nord, l'Allemagne en particulier. Alors ils prennent la route des Balkans, un voyage éprouvant et dangereux. Ils sont syriens, afghans, irakiens ou encore somaliens. Bloqués longtemps en Hongrie, ils ont pu prendre le train et traverser l'Autriche. C'est avec un immense soulagement que 30 000 d'entre eux déjà sont descendus à Munich et l'accueil a dépassé toutes leurs attentes. C'est le reportage La Gare de Munich de Pauline Curtet.
À chaque arrivée d'un nouveau groupe de réfugiés, depuis une semaine, la même scène se produit. Des Munichois accoudés aux barrières posées par la police les applaudissent. Certains brandissent des pancartes leur souhaitant la bienvenue, d'autres distribuent bonbons, jouets et ballons de baudruche aux enfants. Après être partie de Turquie voilà deux semaines, Aria, une jeune Syrienne accompagnée de sa belle-sœur et de ses deux neveux, a traversé la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, avant de monter dans un train autrichien qui l'a emmenée jusqu'à Munich. Elle sourit devant l'accueil qui lui est réservé.
J'ai l'impression que je peux enfin respirer. Les gens dans le hall de la gare nous applaudissaient. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ici, on dirait que les gens sont gentils. Alors qu'en Serbie, par exemple, ils étaient vraiment méchants. On nous a fait asseoir dans des camps, sans nourriture pendant longtemps. On a vraiment souffert de ces conditions.
Aria n'est pas la seule à dérouler un tel récit. Les réfugiés dénoncent en particulier leurs conditions de vie en Hongrie, où ils ont été bloqués pendant plusieurs jours, obligés de camper dans la rue ou à la gare, avant de pouvoir monter dans des trains pour l'Allemagne. Résultat, à leur arrivée à Munich et à la vue de tous les bénévoles présents pour les aider dès leur descente du train, ils n'ont qu'un mot à la bouche, l'Allemagne. Abdel Halim, un Syrien qui a dormi 6 jours dans la gare de Budapest, en Hongrie, avant de pouvoir venir en Allemagne, n'a d'ailleurs qu'un message à faire passer.
Thank you for Germany.
Merci à l'Allemagne. Merci de nous avoir aidés à quitter la Hongrie, où les conditions de vie étaient terribles.
In Hungary.
Ces derniers jours, les propos tenus par la chancelière allemande ont convaincu les réfugiés ayant entamé leur voyage vers l'Europe de choisir l'Allemagne comme destination finale. Angela Merkel a fermement dénoncé la xénophobie avant d'annoncer que l'Allemagne pouvait accueillir plus de réfugiés syriens. Mais l'euphorie provoquée par les propos d'Angela Merkel a aussi mis sous pression les autorités locales à Munich, qui ont dû vite s'organiser pour faire face à une très grande augmentation du nombre de réfugiés arrivés sur son territoire. Un mouvement de solidarité s'est rapidement mis en place, au point que la police a régulièrement annoncé que ses stocks de dons de nourriture, de vêtements et de médicaments étaient pleins. Dragan, membre de l'association caritative Jonas Better Place, est venu à la gare pour distribuer des repas aux réfugiés.
Je suis agréablement surpris par la mobilisation des gens en faveur des réfugiés, car on lit beaucoup de choses négatives sur Internet, qu'ils ne devraient pas venir ici. Mais ce sont des êtres humains, ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux. Dans des zones de guerre, ils doivent fuir. Je trouve donc super qu'autant de personnes viennent nous aider.
En quelques jours, de multiples centres temporaires d'accueil ont ouvert leurs portes dans la ville bavaroise. L'un d'entre eux, à quelques rues de la gare, se trouve dans une ancienne concession automobile. Les réfugiés, une soixantaine, y sont enregistrés par la police et y passent une ou deux nuits avant de repartir pour un autre centre d'accueil plus permanent. Pour la plupart, les Munichois qui, dans ce centre, trient les habits, préparent à manger ou jouent avec les enfants des réfugiés, sont bénévoles. Colin Turner est l'un d'entre eux. Il est en vacances cette semaine et a décidé de venir travailler au centre d'urgence.
Le plus important parfois, c'est de leur offrir un café lorsqu'ils arrivent, de discuter avec eux pendant un petit moment. Alors ils racontent leur fuite et parfois ça peut les soulager un peu. Et puis bien sûr, on ressent beaucoup d'espoir chez eux. Ils se réjouissent d'être peut-être arrivés au bout de leur odyssée, à la fin d'un voyage très dangereux.
Cependant, pour de nombreux réfugiés, Munich n'est pas le terminus du voyage. Arrivés au bout de leur capacité d'hébergement, les autorités bavaroises ont appelé à la solidarité des autres régions allemandes. Ces derniers jours, beaucoup de réfugiés sont tout de suite remontés dans d'autres trains ou dans des bus qui les ont emmenés ailleurs, à Hambourg, Francfort, Dresde ou Berlin, entre autres, selon des quotas de répartition établis par le gouvernement. En 2015, le pays devrait accueillir entre 800 000 et 1 million de demandeurs d'asile. Pour faire face, les autorités viennent d'annoncer un plan d'aide de 6 milliards d'euros. De quoi négocier avec précaution, un tournant que beaucoup qualifient déjà d'historique pour l'Allemagne. God save the Queen,
she ain't a human being. Elle n'a pas de passeport et pourtant elle est reçue depuis plus de 63 ans par les grands de ce monde. La reine Elisabeth II dépasse tous les records, et d'abord celui de longévité. Elle a même passé plus de temps sur le trône que son aïeul Victoria, qui détenait le précédent record. Record de longévité donc, mais aussi de popularité en Grande-Bretagne pour The Queen, qui a fêté ses 89 ans l'été dernier. Marie Billon nous appelle de Londres.
Elle dépasse les 23 226 jours, 16 heures et 23 minutes du règne de son aïeul. Et pourtant, comme elle, Elisabeth II ne veut pas faire toute une histoire de cette date. Victoria l'avait notée dans son journal, mais ne voulait pas de célébration particulière. Elle aurait trouvé ça de mauvais goût. Après tout, elle ne battait ce record que parce qu'elle avait eu la chance de survivre. Et surtout, elle ne voulait pas avoir l'air de fêter la mort du détenteur du record de l'époque, George III, le roi fou. La reine actuelle est dans le même état d'esprit, pas de défilé sur la Tamise, pas de rassemblement devant Buckingham Palace, elle n'est même pas à Londres, mais en Écosse. Mais comme au temps de son aïeul, ces sujets ne sont pas aussi timides. Au XIXe siècle, les porcelaines souvenirs avec la mention « le plus long règne de l'histoire » ornaient déjà les étagères des magasins, ce qui reste tout de même plus distingué que lorsque George III a battu son record. On avait apparemment jeté des sandwichs à la populace du haut d'un toit et libéré des prisonniers danois. Rien de tout ça en 2015, bien sûr, mais on n'échappe pas à la tasse. Souvenir, n'en déplaise à sa majesté. Elle veut un jour tranquille, mais plusieurs personnalités ont appelé à une véritable célébration officielle, et ils l'auront, mais pas maintenant. C'est au printemps prochain qu'on fêtera la longévité de la reine pour son anniversaire. Un banquet géant sera organisé sur The Mall, la grande route qui arrive sur Buckingham Palace. Elisabeth II aura alors 90 ans, et grâce à sa longévité, son fils, le prince Charles, a lui aussi déjà battu un record. Il est l'héritier du trône le plus âgé de l'histoire du Royaume-Uni.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors après ce que nous avons entendu un peu plus tôt dans les reportages, cela peut paraître surréaliste, mais oui, les jeunes Européens sont inquiets et dès aujourd'hui, nous parlons avec vous de bonheur et plus précisément du degré de bonheur qui n'est pas forcément le même chez tous les jeunes Européens.
Et oui, depuis quelques années, la jeunesse européenne fait régulièrement la une des journaux et pas forcément toujours avec des nouvelles très réjouissantes. Rappelons quand même que la jeunesse doit aujourd'hui globalement faire face à un taux de chômage particulièrement rude, des conditions d'accès au logement de plus en plus difficiles. difficile, une croissance économique nulle, qui offre peu de perspectives d'évolution. Bref, même s'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne et qu'il y a bien pire ailleurs dans le monde, la jeunesse européenne a le sentiment de moins bien vivre que ses aînés.
C'est en partant de ce constat que l'Institut européen de sondage Eurostat a voulu connaître quel était le taux de bonheur brut des jeunes européens sur le modèle du PIB en fait.
Exactement, en retenant 5 critères, leur satisfaction par rapport à leur environnement de vie, à leur travail, à leur situation financière, à leurs relations personnelles ou encore à leur sensation d'avoir une vie qui a du sens.
Et alors, où se trouvent les Européens les plus heureux ?
Eh bien, c'est en Autriche, puis en Islande et en Finlande que les jeunes ont le taux de satisfaction global le plus élevé, entre 8 et 10, sur une échelle comprenant 10 graduations. La France et l'Allemagne sont dans la moyenne européenne, avec 7,6 sur 10. Ça grince, par contre, du côté de la Bulgarie et de la Serbie, où le taux de satisfaction global dépasse à peine la barre des 5.
Un autre critère a particulièrement retenu votre attention, Ève.
Oui, c'est un des critères retenus par Eurostat, où les jeunes Français se distinguent particulièrement la sensation d'avoir trouvé un sens à la vie. Sur cette question, la moyenne des réponses données par les jeunes Français tourne autour des 7 points. Ils sont donc parmi les Européens de leur tranche d'âge les moins optimistes. Les plus optimistes, eux, se trouvent en Finlande, qui décidément accueille sur son sol les Européens les plus heureux, ainsi qu'au Danemark, au Luxembourg et au Portugal.
Bon, alors, avant de déménager en Finlande, peut-être une note plus positive ?
Oui, on trouve tout de même quelques informations rassurantes dans cette enquête, comme par exemple le fait que le domaine de leur vie que les jeunes considèrent comme le plus réussi reste leur vie privée, et cela partout sur le continent. C'est déjà ça de prix. Et pour ceux qui veulent participer eux-mêmes au sondage, Eurostat a mis en place un outil, un site internet toujours disponible. Cherchez Eurostat, les jeunes européens, et qui vous permettra de comparer votre situation à celle de tous les autres jeunes qui, eux aussi, ont répondu à ce quiz ou tout simplement de retrouver les résultats de l'enquête dont je viens de vous parler.
Merci Ève et on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, s'il y en a un qui est heureux, même s'il n'est plus si jeune, c'est bien Bono. Le leader du groupe U2, le groupe emblématique irlandais, serait devenu l'une des pop stars les plus riches du monde grâce à ses investissements dans Facebook. Ses anciens studios d'enregistrement, eux, ont été démolis il y a quelques mois seulement afin de laisser place à un projet immobilier. Le site était pourtant devenu un lieu de pèlerinage pour tous les fans. Sébastien Duval.
Les murs de pierre des studios Windmill Lane ont vu la naissance de quelques morceaux mythiques comme celui-ci, I Will Follow. Le groupe irlandais U2 y a enregistré ses premiers albums dans les années 80, dont le célèbre Joshua Tree, son plus grand succès en date. Situé dans l'ancien quartier des Docks de Dublin, l'établissement accueillit d'autres grands noms de la musique irlandaise, comme Van Morrison ou Sinead O'Connor. Mais le nom de Windmill Lane restera à jamais associé à Bono et ses camarades. Windmill Lane, c'est en quelque sorte l'équivalent dublinois des studios Abbey Road de Londres, rendu célèbre par les Beatles. Les fans de U2 avaient pris l'habitude d'y venir en pèlerinage, laissant parfois quelques mots sur les murs ou le trottoir en guise d'hommage. Mais le quartier autrefois délabré a pris de la valeur avec l'implantation à proximité des géants américains de l'informatique, Google et Facebook. Une société immobilière a racheté le bâtiment afin d'aménager des bureaux et des appartements. Alors que les studios avaient déménagé un peu plus loin à la fin des années 90, l'ancien site a été démoli au printemps dernier. Un pan entier de la musique irlandaise s'est alors écroulé en quelques coups de pelleteuse. Face à la pression des fans, le promoteur immobilier a épargné un morceau de la façade couverte de graffitis. Deux musées dublinois souhaitent en faire l'acquisition afin de conserver la trace des premiers pas de U2, un groupe curieusement plus populaire à l'étranger qu'il ne l'est en Irlande. Les touristes sont d'ailleurs toujours nombreux à se rendre dans le nord de Dublin pour voir la maison dans laquelle a grandi Bono sur Cedarwood Road. Cedarwood Road, c'est le nom d'une chanson du dernier album du groupe. Sorti il y a tout juste un an, il a été principalement enregistré aux États-Unis, loin. Très loin de Windmill Lane.
Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation. Françoise Grelot, vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques secondes, les infos.